C'est vrai que nous disons quand nous visitons une église toujours un peu la même chose, mais c'est une réalité que de voir qu'il y a un peuple à Annecy. Pas n'importe quel peuple, le peuple du Seigneur. Et il semble que dans le monde, ce peuple grossit de plus en plus. Amen. Est-ce que vous avez des chaises d'avance? On trouvera. Que Dieu soit béni. Amen. J'avais à cœur de vous faire faire quelque chose. Qui a une Bible ici? Est-ce qu'on peut la lever? Alors, ce n'est pas pour voir quelle est votre Bible. Je ne vous la volerai pas. Parce que vous savez que nous, on en a une. Hein, on en a plusieurs. Hein, voilà. Mais est-ce qu'on peut déclarer quelque chose? Il y a quelqu'un qui n'aime pas ce qu'on va faire ce matin. On va faire une déclaration. C'est juste une de plus d'une déclaration que nous avons faite par les chants. Est-ce qu'on peut se lever? C'est solennel. Amen. Parce que des choses vont se passer à chaque fois que la parole est prêchée. Ce n'est pas le bonhomme qui est important. Ça, c'est rien du tout. Ce qui est important, c'est la parole de Dieu. Ta parole est la vérité. Ta parole est la vérité. Amen. Et la vérité nous a été portée par le Seigneur Jésus. La parole est une personne. La vérité est une personne. Il est au milieu de nous. Attendez-vous. Attendez-vous à une visitation du Seigneur. Amen. Quand j'ouvre ma parole, ce n'est pas pour terminer mon plan de lecture. C'est bien ça. Ce n'est pas une performance, mais c'est pour avoir un entretien avec lui. Rendez-vous compte du privilège, Dieu est avec nous. Amen. Et nous voulons qu'il soit non seulement avec nous, mais qu'il reste avec nous. Amen. Ta parole est la vérité, c'est le thème. C'est ce thème-là. Si l'on peut parler de thème, quand on parle de Jésus, Jésus n'est pas un thème. Mais pour vous parler de la vérité, nous allons aller dans Éphésiens chapitre 6 et au verset 10. Éphésiens 6 à partir du verset 10. Vous connaissez, pour vous qui êtes habitués à la parole de Dieu, vous connaissez ces textes. Et nous allons prendre le temps quand même juste de lire son ensemble jusqu'au verset 20. 10 versets, on devrait y arriver. Éphésiens 6 à partir du verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes. C'est une drôle d'ambassade quand même. Et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Amen. On va passer une petite diapo, si c'est possible. Et je voudrais que nous puissions juste nous arrêter sur cet élément qui constituait l'armure de ce soldat. Nous nous arrêterons sur le mot ceinture et le mot vérité. La ceinture du légionnaire romain à l'époque de Paul, ça s'appelait le ceinturon ou le cingula. C'était une grande courroie de cuir qui se portait par-dessus l'armure et protégeait le bas du ventre avec son tablier. et il maintenait ce ceinturon, donc, les autres courroies de cuir et notamment les deux glaives qui étaient portés de chaque côté, le gladius à droite et le pugio, je ne sais pas si ça se dit vraiment comme ça, au niveau de certains angles, j'ai un peu de mal, à gauche. Donc il y avait deux glaives. Il était toujours porté avec la tunique et servait d'insigne aux soldats. Les cliquetis métalliques provoqués par le ceinturon au cours des marches étaient un moyen d'intimider l'ennemi. Et c'est pour vous dire que déjà, lorsqu'on regarde le contexte de ce texte, on se dit plus que peut-être notre ceinture, qui est parfois décorative, était et avait toute son importance s'il retirait cet élément-là, il n'était plus armé, il n'y avait plus rien qui tenait. Et quand la Bible nous parle de ceinture, c'est important. Tout autant que toutes ces armes que Dieu, dont Dieu voudrait nous équiper. La Bible, lorsqu'elle nous enseigne, qu'est-ce qu'elle nous enseigne à propos de la ceinture? Nous le verrons rapidement par quelques textes, mais elle va parler premièrement de justice. Elle va parler aussi de fidélité. La Bible va encore par ailleurs parler de vérité, forcément, mais aussi de force, mais encore par ailleurs d'attachement. Voilà les principales significations dans la Bible que nous trouvons et qui nous enseignent. Si je vais par exemple dans Ésaïe au chapitre 11 et à partir du verset 1 à 5, il est dit ceci: puis un rameau sortira du tronc d'Ésaïe et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel, reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel, il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui-dire ou une rumeur, mais il jugera les pauvres avec équité. Il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge. Et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs. Et la fidélité, la ceinture de ses reins. Fidélité, justice. Qui aime l'injustice? Qui aime l'infidélité? Nous avons trouvé et nous trouvons à chaque fois que nous nous approchons du Seigneur ces qualités-là, ces vertus. Ne pensons pas un instant qu'un jour nous trouverons en la personne de Jésus de l'injustice. Moi-même un jour, j'ai dit: toi tu es injuste. J'ai dit à des chrétiens: tu n'es pas juste. Mais j'ai compris, parce qu'un jour j'ai été éclairé dans mon cœur, que Dieu est juste et il le sera toujours, parce que son amour est invariable, sa justice est invariable et toutes ses vertus sont invariables. Il ne change pas, même pas une, ne serait-ce qu'une ombre de variation en sa personne. Personne n'a pu le mettre en défaut lorsqu'il était sur la terre. Il l'a dit, il a osé le dire. C'est pas moi qui le dirai. Qui pourra me convaincre de fraude? Personne. Et nous devons faire confiance ce matin, déjà par ces premiers mots, que le Seigneur, il est la vérité, il est la justice, il est la fidélité. Tu peux le mettre à ta taille. Tu peux l'embarquer avec toi, si je puis le dire comme cela, avec beaucoup de respect. Mets la ceinture de vérité à tes reins. N'aie pas peur de la vérité. Dans Job, chapitre 12 et au verset 18, il est dit: il délie la ceinture des rois, il met une corde autour de leurs reins. Vous savez que la Bible dit concernant les rois et ceux qui ont du pouvoir que déjà c'est lui qui les a mis en place. Ça nous étonne, nous, parfois. Vous savez, on est un peu critique par rapport à nos dirigeants. Hein. Ce qu'il faut faire, c'est parfois, effectivement, les critiquer. Mais n'oubliez pas de prier pour eux. Parce que ça aussi, c'est dans la parole de Dieu. C'est à commander. Mais c'est pour vous dire, peut-être à vous qui êtes là au milieu ce matin et qui dites, comment je vais m'en sortir? Un don spirituel a été très précis. Sache que les rois, ceux qui sont élevés en dignité. Le Seigneur nous le dit dans sa parole, que les rois sont comme un courant d'eau dans ses mains. Vous avez déjà essayé de récupérer de l'eau? On a fait un petit peu ça hier, hein, avec une photo, avec les jeunes. Eh bien lui, il est capable. C'est lui qui a mis des bornes à tous les océans, nous dit la parole de Dieu. C'est lui qui a fait à cette mer, toi tu vas rester là, tu n'iras pas plus loin. Combien Dieu est bon pour nous. Permettez-moi de vous dire que nous avons plus d'importance que tous les océans réunis. Amen. Et qu'il est capable d'ouvrir les cieux comme il l'a déjà fait d'ailleurs pour chacun et chacune d'entre nous. Tu as peut-être un souci de papier, tu as peut-être un souci de travail. Que sais-je encore ce qui peut agiter ton cœur? Reste tranquille. Le chemin va s'ouvrir. La porte va s'ouvrir. Et s'il y en a une qui s'est déjà fermée, c'est parce qu'une meilleure doit être ouverte. Gloire à Dieu. C'est important de lui faire confiance et de savoir qu'il dit toujours la vérité. Lorsque la Bible nous parle toujours de la ceinture, dans le psaume 18, verset 32, il est dit ceci, psaume 18, 32, « Car qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Et qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? C'est lui qui me ceint de force et qui m'en conduit sur la voie droite. » Ce n'est pas à droite, c'est sur la voie de la droiture. Mon cœur a besoin de droiture. Mon cœur a besoin de trouver toute la vérité. Amen. Jérémie 13:11 dit ceci, « Car comme on attache la ceinture au rein d'un homme, ainsi je m'étais attaché toute la maison d'Israël et toute la maison du Juda, dit l'Éternel, afin qu'elles fussent mon peuple, mon nom, ma louange et ma gloire. Mais ils ne m'ont pas écouté. » L'histoire des Hébreux, l'histoire d'Israël, c'est aussi ça. C'est une vie d'infidélité. Et on pourrait être tenté, comme certains l'ont fait par ailleurs dans l'histoire, de regarder vers les Juifs jusqu'à les rejeter. Mais ce peuple qui a été pris en charge après avoir été délivré de 430 ans d'esclavage n'est autre que notre image, amis. Que l'on soit juif ou non juif, c'est le même cœur de pécheur qui a été touché par le péché. Nous n'avons pas besoin d'être pro-juifs. Nous n'avons pas besoin d'être pro ceci, pro cela. Celui qui change le cœur, c'est le Seigneur. Et c'est la vérité de Dieu qui change. Et qui commence effectivement par nous bousculer, parce que le Seigneur nous dit la vérité avec tout son amour. Et à un moment donné, je me souviens, moi, quand j'ai commencé à savoir que la Bible était la vérité, je connaissais plus la sortie. Hein. J'avais peur de la vérité. Mais j'ai compris que ce Dieu-là était venu sauver un pécheur que j'avais besoin de reconnaître, et ce pécheur, c'était moi. À un moment donné, je ne sais pas si c'est comme vous, mais à un moment donné, il semblait que celui qui était là, ici, sur l'estrade, il ne me parlait qu'à moi. Je me suis dit, à un moment, mais il se permet bien des choses. Mais j'avais oublié qu'en fait, on était plusieurs. Il me disait la vérité pour que je puisse être affranchi. Être libéré et enfin à être mis en position de liberté pour choisir ce merveilleux sauveur que nous avons loué. Alléluia, que Dieu soit béni. La vérité pour ceinture, quelle application nous pourrions faire d'une manière pratique pour nos vies? Pourquoi Paul cite en premier la vérité pour ceinture? Nous répondrons simplement, mais on ferait quoi sans la vérité? Au même titre que pour ce soldat, qui, s'il enlevait par mégarde, si on lui enlevait cette ceinture, Il n'aurait plus de quoi se défendre. Il n'aurait plus de quoi sur quoi s'appuyer. Que ferions-nous sans la vérité? La Bible sans la vérité ne serait qu'un livre distrayant, quelque peu historique, il est vrai. Mais quand vous cherchez dans votre concordance le mot « vérité », il est présent presque à toutes les pages. Qu'il soit cité ou pas, c'est le livre de la vérité. Amen. Qu'entendons-nous justement par « vérité » Le texte littéral, lorsqu'il parle de « vérité », dit ceci, « soyez saints de vérité », du verbe « saint ». Paul emploie ici un terme « altheia » qui signifie « vérité de Dieu ». Vous avez certainement rencontré des personnes qui vous ont dit « Oh, moi j'ai ma vérité. Toi, tu as ta vérité et moi j'ai ma vérité. » Et comme cela, on vit parfois quelques années. Et lorsqu'on nous présente la vérité de Dieu, elle nous dérange. Elle nous bouscule, comme je le disais pour ma propre vie tout à l'heure. La vérité de Dieu n'est pas la vérité des hommes. Comme je vous le disais tout à l'heure, cette vérité, une personne est venue en chair et en os nous la présenter. Et quand nous citons ce texte bien connu de Jean 14, où il est dit ceci, « C'est moi qui suis le chemin et la vérité et la vie, nul ne vient au Père, que par moi, c'est le même mot. C'est moi qui suis le chemin et la vérité de Dieu. Il fallait que nous trouvions ce chemin-là. Malgré toute notre bonne motivation, comme la Bible dit, nous étions en train de tâtonner. Pour ma part, je me suis retrouvé un jour dans une salle comme celle-ci qui s'appelait la salle du royaume. Chez les témoins de Jéhovah. Il y avait dans cette salle, dans cette doctrine, des vérités. Mais on avait oublié de parler de celui qui est la vérité. Et vous savez ce que dit la Bible, si on nie le Fils, on nie le Père. J'avais beau chercher dans les enseignements, il n'était pas là. Et grâce à Dieu, ma famille, un jour, par une invitation peut-être que la même invitation que vous ferez cet après-midi, quelqu'un nous a dit, et l'humour de Dieu c'est ça, je ne sais pas pourquoi encore, mais c'est une personne qui ne fréquentait pas l'église qui a dit, viens à l'église. Moi je ne l'ai pas vu. Hein. Viens à l'église. Il a dit ça, simplement. Et effectivement, nous avons trouvé, non pas une vérité, mais le message de vérité. Et tout s'est enclenché dans notre famille. Voyez-vous, la vérité de Dieu, c'est tout autre chose que la vérité des hommes. Lorsque la Bible nous parle de vérité. Éphésiens, chapitre 4, et au verset 20 et 21, dit ceci. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité, vérité de Dieu, qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. C'est le même mot. Hier, nous étions avec les jeunes et nous nous sommes posé une drôle de question. Hein. As-tu ton passeport pour le ciel? Et une dernière question, c'était celle-ci, c'est un dernier point que nous avions vu, c'était à un moment donné, pour faire un voyage, pour faire un tour du monde, c'est vrai qu'on ne peut pas emmener la salle à manger. Hein. Ou alors l'avion, il va avoir un problème. Et Dieu nous apprend par sa vérité à discerner ce qui est utile, de ce qui édifie, de ce qui est temporaire, de ce qui est éternel. Le Seigneur nous apprend par sa parole et guidé par le Saint-Esprit à investir dans le ciel plutôt que dans des choses terrestres, même louables, de profiter de notre séjour terrestre, comme le dit ce texte, pour faire tout pour la gloire de Dieu. Amen. Et c'est vrai que cela demande, comme le dit ce texte, des instructions à suivre pour se dépouiller. C'est pas facile d'être dépouillé, hein. Dépouillé de mon moi, de ma suffisance parfois. Mais sachez une chose, c'est quand Dieu dépouille, il remplace toujours par des choses honorables. Il met des pierres précieuses, de l'or et de l'argent, que nous retrouverons là-haut. Amen. La vérité des hommes n'est pas la vérité de Dieu. Jésus nous enseigne que le monde ne peut pas recevoir cette vérité-là. Le monde tel qu'il est. Mais il y a besoin d'une intervention. Dans Jean chapitre 14 et au verset 17, il est dit « L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous et qu'il sera en vous. » L'esprit de vérité, appelé communément dans les églises le Saint-Esprit. Je le rappelle, qui est Dieu. Amen. Et toutes celles et ceux qui aspirent à être baptisés du Saint-Esprit, vous qui avez reçu le salut pleinement, c'est la meilleure des prières. Amen. Parce que je sais que moi, charnellement, avec mes limites, nous l'avons chanté, je serai limité pour satisfaire l'exigence de la parole de Dieu. Comment je pourrais, moi, prétendre aimer mon ennemi et jusqu'à prier pour lui? Quand je dis souvent à d'autres, mais le Saint-Esprit qui est Dieu, nous en avons l'exemple de Jésus-Christ, nous rend capable, cela devient possible. Amen. Amen. Dieu nous donne le pouvoir. Ne nous a-t-il pas donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu? Il y a une suite ensuite. Il y a cette vie extraordinaire sous le contrôle du Saint-Esprit. Amen. Des choses encore que nous n'avons pas les uns et les autres vécues. Oh, on en a entendu dire. Mais il faut qu'Annecy soit révolutionnée comme ils ont révolutionné le monde. N'ayons pas peur. Je parle des cœurs, des conceptions humaines. Que notre ville soit frappée au cœur par l'amour de Dieu. Amen. La vérité et l'amour sont indissociables. Nous voyons cela dans 1 Thessaloniciens, chapitre 2, 2 Thessaloniciens, pardon, 2, à partir du verset 1, où il est dit ceci, « Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, et notre, j'aime bien ça, et notre réunion avec lui. » Qui sait? Peut-être que c'est la dernière qu'on vit. C'est peut-être le dernier rassemblement. Notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. C'est vrai qu'il le croit, hein. Soit c'est des fois en Amérique, soit c'est des... Bref. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on en appelle Dieu et de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient, encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus-Christ détruira par le souffle de sa bouche, et qui l'anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de signes et de prodiges et de mensonges, et avec toutes ces séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu, écoutez bien, ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Sommes-nous animés de l'amour de la vérité? Il y en a qui en étaient tellement animés qu'ils n'ont pas hésité une seule seconde à mourir pour l'amour de la vérité. Disons non à un moment donné au risque de leur vie. Ils ont défendu la parole de Dieu, ne faisant aucun compromis, disant « Non, ce n'est pas possible. Jusqu'à présent, nous avons obéi à la loi des hommes comme la parole nous le demande. Mais il y a un moment donné où il faut choisir entre renier sa foi, c'est ce qu'ils ont vécu, et suivre le Seigneur. Je crois que ce temps arrivera aussi pour nous. On n'est pas là pour se faire peur, mais il faut être réaliste. Il faut savoir discerner les temps dans lesquels nous sommes, afin que, pendant le temps que le Seigneur nous donne de vivre encore, nous puissions considérer cet amour de la vérité. Ce n'est pas toujours facile. Dans le psaume 51, c'est David qui parle et qui prie. Après avoir péché gravement, il demande à Dieu de mettre au fond de son cœur sa vérité. Il demande à Dieu, il fait une prière précise. Il pourrait se dire, j'ai péché, il pourrait se dire, c'est terminé. Non. Mets ta parole, s'il te plaît, dans mon cœur. Mets-la au fond de moi, c'est-à-dire au centre de ma vie, afin que je sache comment, à présent, me conduire. Dans 2 Timothée 3,7, il est dit ceci, Paul parle de personnes qui étudient la Bible mais qui ne peuvent pas parvenir à la connaissance. Et dans 1 Timothée 6,5, il est dit, Paul parle d'hommes qui sont corrompus dans leur entendement. Ils ont fini par être enflés d'orgueil. Ils ont privilégié la connaissance qui enfle justement, mais en ne jamais aimer la parole au point de l'appliquer chaque jour à leur cœur. Ils sont de ceux qui donnent de grandes leçons. Ils sont parfois même derrière le pupitre, mais ils n'aiment pas la vérité. Je crois que c'est ce qui nous a touchés, mes frères et sœurs, dans le message de l'Évangile, c'est d'abord que Jésus est venu en personne accomplir sa parole. Il faisait une grande différence, il y avait une grande distinction lorsque les gens le regardaient. Parce qu'il disait, il dit une chose, comme nos chefs religieux, mais ce qu'il dit, il le vit. Voilà la lettre lue dont parle la parole de Dieu justement. Et il nous dit, vous êtes une lettre lue. Je crois, et il faut le rappeler, que la plus belle et la plus grande et la plus efficace campagne d'évangélisation, elle a commencé dans notre cœur, où Dieu a touché notre cœur, et que Dieu a commencé à écrire sa parole sur notre cœur. Et à chaque fois que je lis la parole, que je me plonge dans la parole, Dieu écrit sa parole sur mon cœur de chair qu'il m'a donné. Avant j'avais un cœur de pierre, mais il m'a donné un cœur de chair, capable de recevoir cette parole. Rempli du Saint-Esprit, il nous pousse, il nous envoie ici ou là, au travail, à l'église, à la boulangerie, chez le boucher, pour que cette parole ensuite, écrite sur notre cœur, puisse jaillir. Des fois par un simple merci, avec un beau sourire. Et même cela, la personne sera interpellée. Je crois que c'est important pour nous de comprendre cela. Connaître la vérité, c'est bien, c'est très bien. C'est un bon début, mais la pratiquer, c'est mieux. C'est ça l'amour de la vérité. C'est pas autre chose. Dans Éphésiens 4, 15, il est dit ceci. On va peut-être l'afficher. On peut là, oui. Moi, je regarde pas depuis tout à l'heure, c'est pour ça. Et que professant la vérité dans l'amour, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Ce texte nous dit que nous devons pratiquer la vérité. La vérité donc doit nous motiver pour changer notre conduite, nos paroles et nos pensées. Vous savez que cette vérité, cette parole a la faculté extraordinaire de séparer esprit et âme, jointure et moelle. Nous, des fois, c'est un peu compliqué. Vous êtes des fois dans le brouillard comme moi. Vous êtes arrivé parfois à dire là, je ne sais plus où j'en suis. Et un texte, parfois, nous le lisons, j'espère pas par hasard. Mais en tout cas, il arrive à point nommé et il nous éclaire. Et vous vous dites tout simplement, mais pourquoi je ne l'ai pas vu avant? Parce que tu ne l'as pas vu avant. Cette parole, lorsqu'elle est fraîche, elle nous est donnée un point nommé. Elle nous fait tellement du bien. Vous savez, la stratégie de l'ennemi, ce sera toujours de vous éloigner de la parole. Là où elle est prêchée, là où elle est dans vos maisonnées, là où vous la partagez, dans les cultes en famille, etc., dans vos cultes personnels. C'est ça qu'ils veulent. C'est la stratégie de l'ennemi. Pour que vous ne puissiez pas être nourri. Et n'étant pas nourri, pour que vous puissiez être faible, de plus en plus affaibli, pour que vous ne puissiez plus vous défendre. C'est un lâche. Voyez comment il est venu tenter Jésus. Il a attendu le dernier moment où il était le plus faible, physiquement parlant. Mais Jésus a tenu ferme. Pourquoi ? Bien des choses, je pourrais dire. Mais il était rempli du Saint-Esprit. Et il était la parole. Amen. Que le Seigneur soit béni. Être saint de la vérité, de la ceinture de la vérité, c'est se tenir dans la vérité. Jésus dira, je suis la vérité. C'est un présent permanent. Il n'a pas dit, je serai où j'étais. Mais je suis présent, permanent. Lorsque Jésus parle justement du diable, en tant que père du mensonge, il dira ceci, il ne se tient pas dans la vérité. Il est ailleurs que dans la vérité. De temps en temps, il fait des combines. Il essaie de séduire. C'est écrit dans Jean 8, 44. Ce qui ne l'empêche pas de citer l'Écriture dans Matthieu 4, 6. Des choses vraies. Comme le font certaines doctrines, certaines fausses doctrines. Dans l'Apocalypse au chapitre 12, au verset 10, il vient nous accuser. Ce texte nous dit, jour et nuit, devant Dieu, il est là. Et t'as vu tatati, t'as vu tatata. Ne suivons pas son exemple dans l'Église. Ne suivons pas son exemple dans les familles. Permettez-moi de vous le dire. La critique est destructrice. Qui plus est lorsqu'elle est nourrie de rumeurs. Que Dieu trouve en nos cœurs une terre sainte où il peut résider et demeurer. Amen. Que nous puissions mettre notre langue en bride et que Dieu soit celui qui anime cette langue et ce cœur. Vous savez, on a un petit peu d'expérience, et vous aussi, on sait très bien comment ça se passe. Et Jacques nous le dit. Il y a une certaine embarcation, vous savez. Oh, qu'est-ce qu'il est beau, ce bateau. Et il nous parle de ce qui le dirige. Qu'on puisse utiliser la langue juste pour un bon repas, comme on nous a servi. Voilà, c'est bien. Et pour prêcher l'Évangile, pour rendre témoignage. Amen. Pour dire ce que la Bible dit, de belles choses qui honorent le Seigneur. Le Saint-Esprit a été envoyé pour nous conduire dans toute la vérité et nous rappeler les enseignements de Jésus afin de nous maintenir dans la vérité. Amen. Que Dieu soit béni. Ça, c'est dans Jean 16, 13 et 14. C'est bien connaître la vérité, mais y demeurer, Seigneur. Amen. D'être dans la vérité avec le Seigneur Jésus. Mais qu'est-ce que c'est beau. Il y a des gens avec qui, parfois, on n'est pas bien à l'aise. Parce qu'on sait très bien qu'ils risquent de nous malmener parfois. On n'est pas à l'aise. Mais avec Jésus, on n'a rien à craindre. Sur ce chemin qu'il dira être, c'est ce chemin de la vérité. Amen. Je crois que c'est important pour nous de comprendre ça, que aussi, encore une pensée, la communion avec Dieu n'est pas possible. Elle n'est possible que dans la vérité. Voilà pourquoi Dieu va prendre soin à nous débarrasser de tout ce qui est ces scories, ces choses qui ne portent pas de fruits, ces zones de péché qui sont là parfois en train d'insister, s'accrocher à nous. Parce qu'il veut une véritable communion avec lui. Afin que rien entre lui et nous et lui, ne vienne, ne serait-ce que d'une once, perturber cette communion. Ça a coûté tellement cher à la croix. Je me fais souvent cette réflexion. Alors que tout est prêt dans le jardin d'Éden. J'en parlais encore avec les frères et sœurs qui suivent une instruction au baptême. Je ne sais pas combien de temps ça a duré, cette histoire, avec Adam et Ève. Combien le discours du serpent a duré. Mais je pense que c'était très court quand même. Au regard de tout le soin que Dieu a pris soin de mettre tout ce qu'il fallait pour que ensuite, lorsque Dieu va souffler, faire d'Adam une âme vivante, tout était prêt. Ses yeux ont vu des merveilles. Il a vu des merveilles. Il avait une communion extraordinaire. Tout a été perdu, peut-être en quelques minutes, je ne sais pas. Et Dieu, dans son amour, parce qu'il nous aime tellement, il avait déjà prévu, non pas comme une roue de secours, hein. Il avait tout prévu. Et nous le voyons, nous le savons, la perspective du salut. Amen. Pour que tout un jour puisse être restauré. Aujourd'hui, quel bonheur nous avons d'être dans la paix. Amen. Est-ce que vous êtes en paix, mes frères et sœurs? Dites-le. Je suis en paix. Gloire à toi, Seigneur. Tu m'as réconcilié. Amen. Et dites-vous pas comme certains, si je suis en paix, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il doit y avoir un truc qui va m'attendre. L'ange de l'Éternel, il campe où? Auprès de ceux qui le respectent, qui le craignent. Amen. Que Dieu soit béni. Dans 1 Jean 1:7, il est dit ceci. Nous voyons qu'il est question de la lumière de Dieu qui nous apporte la communion avec Dieu. Alléluia. Être en communion avec Dieu, c'est-à-dire dans sa lumière. Amen. C'est le moment où on est le plus vrai. Est-ce que vous êtes le plus vrai à l'église ou devant Dieu? Est-ce que vous êtes aussi libre à l'Église que dans la communion avec Dieu? Mais si nous marchons, dit ce texte, dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous avons communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Tu as un péché? Viens dans sa lumière. Tu as une addiction? Viens dans sa lumière. N'aie pas peur de sa lumière. N'aie plus peur de sa lumière. Amen. Vous voyez que Dieu a tout prévu. Dans tous nos doutes, nos hésitations, nos errances, il a prévu sa parole pour que justement nous ne soyons plus parfois emportés ici ou là, que nous puissions nous attacher à lui. La ceinture de la vérité, nous l'avons vu, elle permet aussi l'attachement à Dieu. Mais c'est un attachement, pas comme on le conçoit parfois. C'est le mystère de la piété d'ailleurs. Un attachement volontaire. Un attachement volontaire. Et on connaît l'histoire de Pierre. Et à un moment donné, le Seigneur va avoir une drôle de conversation. Il va lui faire comprendre comment il allait mourir. Justement, on va lui mettre une ceinture. Et bien même ça, Seigneur, c'est pas grave. parce que je sais être attaché à toi. De cette manière, avec ce caractère, si nous parlons d'un moment de communion par l'adoration, il est aussi concevable un instant sans vérité, ce n'est pas possible. Nous avons chanté des vérités ce matin. Alléluia. Que Dieu soit béni. Que le Seigneur soit béni. Puis, la vérité de Dieu est puissante. Nous avons parlé de puissance. Puissance qui brise, tout d'abord, la puissance du péché. Vous savez, souvent, les gens, quand on leur parle de péché, ouais, c'est pas grave, c'est grave. Ils oscillent entre je sais pas quoi. Mais je sais une chose, c'est que la puissance de la vérité, la parole, elle brise le roc. Et le péché n'a pas résisté. Jean chapitre 8 et verset 32 nous le dit. Est-ce qu'on pourrait l'afficher celui-là? Jean 8, 32, s'il vous plaît, les frères. J'ai déjà un petit peu dit, mais bon. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Qui a été affranchi par la vérité? Bon, il y a des timides, je veux bien le concevoir. Hein. Elle m'a affranchi. Ce que je faisais avant, je ne vous en parle même pas, bien sûr, je ne flais plus. Non pas parce que j'ai cherché un certain maître particulier qui habitait une montagne, mais je l'ai trouvé à la personne de Jésus qui se présentait à moi alors que je ne le cherchais pas. Disons-le ainsi parce que c'est la vérité. La vérité a aussi cette puissance, selon Jean 17, elle nous sanctifie. Après avoir brisé le joug du péché, la puissance du péché, elle nous sanctifie, c'est-à-dire elle nous a amenés hors d'eux. Pas dans un autre monde, pas sur une autre planète, mais elle nous a amenés hors d'eux, parce qu'il a fait de nous son peuple, ses enfants. Une autre étape, elle nous sanctifie. Il a fait de nous son peuple. La vérité nous protège. Paul exhorte ses lecteurs dans Éphésiens 4, 27 à ne pas donner accès au diable en marchant dans la vérité et à renoncer au mensonge. Il veut nous protéger. Parfois, on laisse des accès. On ne fait pas attention. On s'est laissé berner. C'est pour ça qu'il faut lire la parole. Parce que cette parole nous prévient parfois des dangers. Elle fait de la prévention. La vérité fait cela. Il faut renoncer au mensonge. Vous avez entendu déjà des personnes qui vous ont dit wow, tout le monde le fait. Hein. C'est tentant des fois. Mais ne le faisons pas. Nous voyons que notre attitude face à la parole de Dieu est en rapport direct avec l'efficacité de cette armure pour nous protéger. La ceinture signifie aussi donc nous préparer à partir. Le repas de la Pâque devait être consommé, la ceinture au rein, ce qui signifie donc dans une attitude d'être prêt à un départ imminent. C'est le symbole du caractère précaire et rapide de notre pèlerinage ici-bas. Bientôt, Jésus revient chercher son peuple. Exode 12, 11 dit ceci, « Et c'est ainsi que vous le mangerez, les reins saints, les sandales aux pieds et le bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte, c'est la Pâque de l'Éternel. » La vérité. Comme je le disais hier, il y a encore de la place pour ce grand départ. Ce n'est pas comme les certains voyages où c'est serré, 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 il n'y a plus de place. Il y a encore de la place. Il y a peut-être une personne ce matin qui s'est sentie comme interpellée, je l'espère, par la parole de Dieu. Tu sais qu'au fond de ton cœur, il n'y a pas la vérité. Tu sais très bien que ton nom n'est pas encore inscrit dans le livre des vies. Tu as peut-être fréquenté cette église ou une autre et Dieu depuis un moment t'interpelle. Dieu voudrait vraiment faire de toi son enfant. Et tu as besoin de reconnaître une chose, une seule chose. C'est accessible à tous. Mais il y a un combat dans le cœur souvent, que tu es un pécheur. Être un pécheur, c'est être loin de Dieu. C'est vivre sa vie sans lui. C'est ne pas le consulter ou que de temps en temps, quand il y a besoin. On a fait une sépulture dernièrement, il y a quelques jours. La sœur est partie après 101 ans d'activité. Et sa fille, qui a connu d'ailleurs Joël et Alexandra, m'a dit une chose en rentrant dans l'église. Quand même, c'est triste. Qu'il faille qu'il y ait un événement comme celui-ci pour prendre conscience qu'on est loin de Dieu. Et ma prière, c'est que non seulement pour elle, mais pour toutes celles et ceux qui êtes ici, vous preniez conscience vraiment aujourd'hui que si vous êtes loin de Dieu, il ne faut pas rester dans cet état. Parce que Dieu vous aime tellement que s'il le faut, il l'insistera non seulement aujourd'hui, mais demain et peut-être cette nuit. Il ne vous laissera pas tranquille parce qu'il voudrait vraiment vous rencontrer et faire de vous ses enfants, son enfant en particulier. Il y a de la place. Jésus revient bientôt et il veut prendre toutes celles et ceux qui veulent reconnaître leurs péchés, qui veulent reconnaître qu'ils sont loin de Dieu. Voyez-vous, le message de l'Évangile, il est simple. Il s'agit de reconnaître ce que nous sommes pour laisser entrer Jésus dans notre cœur et faire de nous ses enfants et commencer une œuvre extraordinaire de transformation et de restauration. Enfin, enfin, tu as la réponse à cette question. Mais moi, je ne suis pas assez bien. Je ne suis pas assez pur. Je suis pas assez ceci, je suis pas assez... C'est la bonne mentalité, viens tel que tu es. C'est humblement qu'il faut que tu viennes. Et lui saura faire le reste. Je vais laisser la place maintenant au pasteur et nous allons prier pour celles et ceux qui le désirent. Pourquoi?
Ça fait un bout de temps que je viens plus à l'église. Je reconnais que je m'étais carrément égaré. Et là, je reviens pour demander pardon pour ce que j'ai pu faire.
Gloire à Dieu.
J'ai emprunté des voies qui ne sont pas vraiment conformes à ce que Dieu veut. Et là, je veux renouer avec Dieu, en fait. Avec tout ce que j'ai entendu, avec tout ce que j'ai pu voir ce matin.
Seigneur, je te prie maintenant, c'est quoi ton prénom?
Élisée.
Seigneur, je te prie. Élisée, Seigneur, tu as entendu sa confession, tu as entendu son désir. C'est toi qui nous appelles à la repentance, qui nous appelles à la réconciliation. Seigneur, mon désir maintenant et ma prière, sa prière, c'est que tu fasses de lui un homme de Dieu, fidèle, attaché à toi. Qu'il ne soit plus, Seigneur, à faire des allers et retours, mais qu'il s'attache à ta parole, qu'il ait envie de te connaître, qu'il ait envie, Seigneur, de sainteté, de pureté. Seigneur, tu lui accordes ta grâce, tu lui accordes ta puissance. Seigneur, pour se maîtriser dans tous les domaines qu'il connaît. Seigneur, je te prie de l'éloigner de toute cette tentation et tu fais que qu'il puisse te donner sa jeunesse. Seigneur, qu'il t'appartienne à part entière. Fais de lui un homme selon le cœur de Dieu. Amen. Dieu te bénisse. Vous l'avez compris pourquoi?
J'ai besoin de me rapprocher, d'ouvrir mon cœur à Dieu et voilà, je me réconforte.
Qu'est-ce que tu sens dans ton cœur là? Dis-le, je sens que tu dois le dire.
Je sens que j'ai besoin de lui, j'ai besoin de force.
Est-ce que tu es prêt à faire ce qu'il faut? Est-ce que tu es prêt à t'approcher de lui chaque jour?
Oui, parce que je ressens que j'ai besoin de quelque chose et je pense que j'ai besoin de lui.
Seigneur, la plus belle prière, c'est celle-ci, c'est de reconnaître que nous avons besoin de toi, parce que tu nous as créés ainsi. Tu es notre besoin, tu es, Seigneur, ce qui nous manque lorsque tu n'es pas là. Je prie que cet homme soit comblé de ce vide, soit comblé de cette insatisfaction. Père éternel, sois celui qui se montre à lui chaque jour, dans les simples moments, comme des moments extraordinaires, qu'il s'attache à toi, qu'il ressente quelque chose ou pas, qu'il soit un homme de Dieu lui aussi, fidèle à ta parole et prêt à te servir. Seigneur, quelles que soient les difficultés qui s'annonceront à lui, lui et sa famille, Seigneur, tu diriges sa vie chaque jour, tu affermis son pas, afin, Seigneur, qu'il soit à toi, tout à toi, en esprit, esprit, âme et corps. Amen.
Amen.
Que Dieu vous bénisse. Tu pries pour elle.
Nous suffit.
Bonjour, pardon, je mange ici.
C'est pas grave. Vous voulez demander quoi, madame?
En fait, ça fait 7 mois que je viens à l'église, mais j'arrive pas à m'accrocher ni à la foi, ni à la vie. Je suis complètement perdue.
Vous avez peur?
Non.
Non?
Je crois pas. Peur de quoi?
Je sais pas.
Non, je suis pas peur, je suis découragée.
D'accord. Vous avez eu des pensées suicidaires? Je le vois dans vos yeux. Et Dieu va restaurer tout ça. Parce qu'il est le Dieu de la vie. Amen. Vous savez, la Bible dit qu'il est au-dessus de notre cœur. Et il dit aussi dans un psaume, le psaume 6, qu'il connaît le bruit de nos larmes. C'est-à-dire qu'il les comprend. D'accord? Et vous êtes ici, ce n'est pas un hasard. D'accord? Voilà, laissez-vous faire. C'est le mot, laissez-vous faire. D'accord? Vous ouvrez la porte de votre cœur. Laissez-le faire. D'accord? Voilà, il va le faire. Ok? Il prend en main votre vie en charge. D'accord? Croyez-le vous simplement. Attendez. Il va commencer à vous débarrasser. Il va changer vos pensées. D'accord? Et vous vous mettrez à croire, parce qu'au préalable, il aura rempli votre cœur de choses qui viennent de lui. On prie? C'est quoi votre prénom?
Élisabeth.
Seigneur, je prie pour Élisabeth maintenant, pour que dans son cœur, Seigneur, soit débarrassé de toutes ces mauvaises pensées, de toutes ces pensées destructrices. Seigneur, tu ne permets pas cela, mais tu mets de la lumière dans son cœur. Tu es celui qui comble sa vie, qui sèche ses larmes. Pour l'instant, elles coulent et tu les comprends, Seigneur. Seigneur, tu donnes une espérance nouvelle. Si elle a été déçue dans la vie, Jésus, bien sûr, nous le sommes tous. Tu deviennes son essentiel, que tu deviennes la pierre angulaire de sa vie sur laquelle une vie nouvelle sera construite. Fais-lui connaître cette nouvelle naissance. Fais-lui connaître cette vie nouvelle que toi seul peux produire, non pas une philosophie ni une religion. Mets la foi dans son cœur, Seigneur. La foi pure, Seigneur. Je la recommande entre tes mains, Seigneur. Je la bénis en ton nom. Le nom, Seigneur, qui peut tout. Que Dieu soit béni, Seigneur, pour ce que tu as commencé de faire et que tu continueras à faire, Seigneur. Que l'amour de Dieu soit connu dans son cœur. Amen. Amen. Continuez à venir à l'église. Amen. La parole est là. D'accord. Laissez-vous faire. Bravo.
Et cet après-midi, nous allons faire venir par des chants, des témoignages célèbres, il y a tout un bon programme. Donc, invitez, voilà, c'est l'occasion, on va passer de bons moments. C'est notre frère René Ascouette qui est ce matin à Rumilly. Et concernant les malades, notre soeur Aimée est rentrée. Donc, elle est à la maison, elle est bien fatiguée. Donc, c'est tout de prier pour elle. Pour le programme de la journée, à 14h30, les jeunes se retrouvent ici parce que certains doivent répéter. On aimerait qu'ils puissent aller dans les rues pour évangéliser. Et puis à 15h30, on veut tous les jeunes ici aussi. Hein, donc Annecy, Yen, Chivor, on les veut tous ici. Voilà, donc la réunion tout à l'heure à 16h, on terminera par une collation. Pensez à des gâteaux, des boissons, etc. pour prolonger ces moments. Donc on risque que si vous n'avez pas assez mangé, on ne pourrait pas tout
manger.
Mais ça m'étonnerait. Voilà, le programme de la semaine, vous le connaissez, lundi c'est à Faverges, mardi ici, jeudi soir à Rumilly, vendredi soir, c'est la réunion de prière ici. La semaine prochaine, on aura aussi un culte spécial. On va entendre parler dans de nombreuses langues, chanter aussi. Hein, on l'a appelé le culte des nations. Voilà, je pense que tout le monde est presque au point. Je ferai passer un programme définitif. Hein. J'avais passé un programme provisoire. Je vais un petit peu le modifier en fonction des données que j'ai eues. Voilà, mais la semaine prochaine, c'est un culte exceptionnel, différent. Ça va, voilà, mais ça sera vraiment un culte où on va se réjouir dans la présence de Dieu. Voilà, et puis deux infos concernant la comptabilité trésorerie. D'abord, les chèques destinés au soutien des personnes en difficulté et aux œuvres sociales doivent désormais être libellés à l'ordre de l'AEJF entraide et non plus à l'ordre de la solidarité évangélique. On a déjà fait l'info, je sais qu'il faut la faire passer plusieurs fois. Et puis on fait la relance pour ceux qui, à l'intention des membres de l'Église, qui souhaitent recevoir leurs reçus fiscaux. Voilà, allez voir notre frère Stéphane Villain ou Stéphane Bernard ou Véronique. Elle n'est pas là ce matin, mais voilà, donc c'est la pensez-y si vous désirez avoir ces reçus. On termine donc par un dernier chant pendant la collecte des offrandes et puis ensuite Stéphane terminera par la prière.